Salut les gens qui se bougent! Comment dépasser le perfectionnisme? Qu'est-ce que c'est que le perfectionnisme? C'est le fait de passer un temps infini sur des détails pour faire en sorte que tout soit parfait. Ça peut être un avantage, mais souvent c'est un énorme inconvénient. Pourquoi? Parce qu'on passe des mois, des années à créer un truc parfait dans notre chambre et quand on le sort, on se rend compte que tout le monde s'en fout. Et je vais vous donner un exemple concret pour illustrer ça. Il y a un des élèves de la formation Blogueur Pro, Thierry Crignon, qui, quand il s'est inscrit, comme c'est à la base un prof de marketing internet dans une école de commerce prestigieuse à Lyon, il s'est dit « Non, j'ai pas besoin de suivre complètement la méthode comme je suis prof de marketing internet, je vais juste prendre ce qui m'intéresse. » Résultat, il a passé 2 ans de sa vie à écrire un bouquin sur la peinture pour en faire un chef-d'œuvre et quand il est sorti, ça s'est pas vendu, tout le monde s'en foutait. Ensuite, il a repris la formation Blogueur Pro de zéro en utilisant toutes les techniques anti-perfectionnisme que je donne dans la formation. Résultat, eh bien, il a créé un premier produit qu'il a vendu, je crois que c'était, il a fait 25 000 euros de vente en une semaine sur une formation sur comment mélanger les couleurs en peinture. Vous pouvez aller là pour aller voir eh bien, son interview dans laquelle il partage son expérience. Donc, le perfectionnisme, c'est aussi une forme de procrastination. C'est une forme de procrastination intelligente. Qu'est-ce que c'est que la procrastination intelligente? Eh bien, c'est tout simplement le fait, contrairement à la procrastination bête, de procrastiner, mais tout en se sentant bien. Quand on procrastine bêtement, eh bien, on va ne pas faire quelque chose qu'on s'était promis de faire en se disant « on va le faire demain ». Et du coup, on va ressentir une culpabilité. Tandis que quand on procrastine intelligemment, on s'ensevelit sous un monceau de tâches qui, de l'extérieur, peuvent sembler être en cohérence par rapport à notre projet et on pourrait croire qu'on est en train de travailler vraiment et d'avancer dessus, alors qu'en fait, on est juste en train d'éviter quelque chose qui nous fait peur. Je vous renvoie à cette vidéo sur les deux formes de procrastination que j'ai publiées récemment. Il y a beaucoup trop d'auteurs, d'aspirants entrepreneurs, d'aspirants globetrotteurs qui veulent faire un tour du monde, de gens qui ont des projets un peu ambitieux, qui tombent là-dedans parce qu'ils ont peur à un moment de vraiment se confronter à la réalité du terrain. Ils ont peur d'échouer ou ils ont peur de réussir. C'est inconscient. Ils vont se mettre « Non, il faut vraiment que ça soit parfait. Il faut que ça soit mon chef-d'œuvre. Il faut que je sois complètement préparé. Il faut que ceci, il faut que cela. » Et du coup, ils vont rester dans un cadre qui est théorique et ils vont être le meilleur de leur chambre. Je vous renvoie à la méthodologie Lean Startup dont j'ai déjà parlé abondamment sur cette chaîne et qui est vraiment la clé du succès. Qu'est-ce que c'est que la méthodologie Lean Startup? Eh bien, c'est tout simplement le fait de mettre en place le plus rapidement possible sur le terrain eh bien, un prototype, un produit minimum viable, donc un prototype. Donc, c'est voilà, une méthodologie qui est intrinsèquement anti-perfectionnisme. On va se focaliser sur les 20% de fonctions ou les 20% d'actions qui vont amener 80% du résultat et 80% ce que les gens veulent. Et on va apporter ces 20% d'action le plus vite possible sur le terrain pour se confronter à la réalité, pour voir si effectivement que ça se passe comme on l'avait imaginé ou si au contraire ça demande des ajustements, ce qu'on appelle en langage Lean Startup un pivot. Donc si vous voulez écrire un livre par exemple, vous voulez écrire un chef-d'œuvre, très bien, mais essayez de vous confronter à la réalité du terrain le plus vite possible. Développez une communauté au moment où vous commencez, si vous ne l'avez pas déjà fait, au moment où vous commencez à créer votre livre. Déjà, elle vous servira énormément quand il s'agira de ensuite promouvoir votre livre, mais aussi c'est une communauté à laquelle vous allez pouvoir soumettre vos idées de manière concrète au fur et à mesure et voir comment on réagit, voir si effectivement ce dont vous voulez parler dans votre livre, ça intéresse vraiment les gens. Ça peut être sous forme de vidéo, ça peut être sous forme d'article et je vous donne un exemple concret encore une fois pour illustrer ça. Jean-Philippe Touzon est un blogueur qui a un blog qui s'appelle Révolution Personnelle, donc c'est un blog de développement personnel. Il a publié il y a quelques années un roman qui s'appelle La femme sans peur, qui a été dans le top 100, voire même dans le top 10 des ventes Kindle pendant des mois et des mois. Et comment il a écrit à la base ce roman? Eh bien, il l'a fait sous forme d'épisodes dans son blog. Dites-vous qu'il y a énormément d'auteurs extrêmement connus comme Zola, Balzac et plein d'autres encore qui ont écrit énormément de leurs romans à la base sous forme de feuilletons publiés dans des journaux. Et ça a énormément d'avantages. Et vous pouvez le faire aujourd'hui avec un blog. Vous écrivez une partie du premier chapitre que vous publiez sur votre blog et vous le proposez à votre communauté. Votre communauté, elle va vous donner des feedbacks. Elle va vous dire « ouais, ça c'est intéressant, ça c'est pas mal », elle va vous donner des idées, des suggestions. Ça va être presque une co-création avec vous sur la suite à donner à l'histoire. Et en plus, ça vous met dans une démarche qui est anti-procrastination parce que du coup, vous êtes en train de vous créer un public qui va être en attente justement de la suite. Et ça va vous booster, vous donner un vrai coup de pied aux fesses si jamais vous êtes tenté de, vous savez, regarder plutôt la télé ou de regarder un film ou d'aller boire des bières avec des potes plutôt que d'avancer comme vous l'étiez promis sur votre livre, par exemple. Comment vous pouvez concrètement mettre en avant vos responsabilités par rapport à un large groupe de personnes? Clamez votre objectif au monde. Faites en sorte que les gens justement vous suivent, des gens vous suivent et vous demandent régulièrement où vous en êtes, où vous en êtes, où vous en êtes. Et en plus, l'intérêt, c'est aussi que vous allez impliquer des personnes qui ensuite vont être susceptibles eh bien, de diffuser ce que vous êtes en train de faire au moment où vous l'achevez. Donc, ce qu'a fait Jean-Philippe Touzon, pour terminer sur mon exemple, c'est qu'il a du coup écrit la moitié de son roman sur son blog, enfin qu'il a publié sur son blog, avec donc l'aide de sa communauté, etc. Et puis après, il a dit, bah voilà, écoutez, j'ai décidé, maintenant, c'est vraiment, ça devient une véritable histoire, donc je vais en faire un véritable roman. Et du coup, bah, si vous voulez avoir la suite, il faudra l'acheter au moment où je sors sur le Kindle. Donc, vous voyez un petit peu tous les bénéfices que ça. Il a beaucoup moins procrastiné. Il a fait une histoire qui était plus adaptée à son public puisqu'il avait les feedbacks de son public. Et en plus, il a engagé ses lecteurs et fait en sorte que il savait qu'au moment où il sortirait son livre, il avait déjà une communauté de gens qui étaient ultra motivés pour l'acheter parce qu'ils avaient envie de connaître la suite. Ensuite, il y a la fameuse analyse 20-80. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que cette vidéo commence déjà à être longue. Allez voir la vidéo sur les trois principes pour réussir en tout le domaine de votre vie. J'en parle en détail. Bon, on pourrait parler de ça pendant longtemps. Le perfectionnisme, ça peut vraiment être une tare. Après, je pense aussi qu'il y a des moments dans la vie où vous devez être perfectionniste. Par exemple, pour mon livre « Tout le monde a payé la chance de rater ses études », j'ai vraiment voulu véritablement créer un chef-d'œuvre, mon chef-d'œuvre en tout cas. J'ai vraiment tout donné pour faire en sorte d'apporter un maximum de valeur dans ce livre. Et parfois, c'est OK d'avoir cette démarche de perfectionnisme. Mais j'ai une démarche de perfectionnisme qui était quand même connectée à la réalité du terrain. Il y a énormément de thèmes que j'ai abordés dans le livre, dont j'ai parlé dans mes vidéos et je regardais la réaction des gens. Il y a des choses que j'ai éliminées parce que j'ai vu que finalement, ça n'intéressait pas les gens tant que ça. Qu'est-ce qui m'a permis d'avoir un tel perfectionnisme sur mon livre? C'est que je ne suis pas perfectionniste sur le reste. C'est-à-dire que le 20-80, se focaliser aussi sur la qualité de vie pour gagner du temps et ne pas se perdre dans des détails et travailler pour le travail, c'est aussi au final important pour pouvoir être perfectionniste sur les choses qui comptent vraiment, sur ce qui vous tient vraiment à cœur, sur ce qui va vous permettre de vous réaliser et d'apporter le maximum de valeur au monde. Quelle valeur vous voulez apporter et comment vous allez vous réaliser? Peut-être que sur l'achèvement, pas l'achèvement, mais la manière dont vous allez passer à un autre niveau, vous transcendez, peut-être que vous devez être perfectionniste, mais sur tout le reste, il faut savoir aller à l'essentiel et surtout, même quand vous êtes perfectionniste, vous connecter à la réalité du terrain. Hey ! Merci d'avoir écouté ce MP3 qui est tiré d'une vidéo publiée sur la chaîne YouTube. Donc, comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous aimez écouter ces podcasts sur iTunes, eh bien, allez tout simplement sur iTunes pour noter cette émission. Voilà, donnez-lui une note si vous l'appréciez. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez voir les vidéos originales desquelles sont extraits les podcasts en allant sur olivier-roland.tv. Hein, olivier-roland, R-O-L-A-N-D.tv. Merci d'avoir écouté ce podcast. À demain pour de nouvelles aventures dans le prochain.